des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. J'ai le plaisir de recevoir Natasha Rublov pour la deuxième partie de l'entretien que nous avons eu début avril. Natasha Rublov est architecte, elle est performeuse. Si lors du premier entretien nous avons sillonné les ressorts qui ont fait naître sa pratique et le passage du collectif à l'individuel, si elle a décrit et lu pour nous de ses performances, entretien que vous pouvez retrouver sur le podcast Encore, sur l'émission et le site de la radio. Dans ce nouvel entretien, nous allons parler de son rapport à l'intime, continuer à décrire de ses performances, parler de ses résidences, collaborations et projets. Bonjour Natasha, merci d'être avec nous. Dans « Être à sa place », la philosophe Claire Marin dit « Que faut-il briser pour exister ?» Essentiellement des représentations qui, s'ajoutant à certains espaces cadenassés, fonctionnent comme des clôtures. Tu parles de résistance intime. À quoi résistes-tu? À quoi résistes-tu? Devrions-nous céder?
Difficile de dire. La résistance, je pense qu'on a... On résiste à tout. Et on... enfin, dans un sens... positif comme négatif. C'est-à-dire que ça peut être une entrave ou ça peut nous permettre d'aller au-delà, de se transformer.
Toi, tu as envie de briser ces résistances intimes? Certaines? Ou tu les explores simplement?
Si, j'ai envie de briser certains, mais peut-être en les explorant, on les brise, on fait une brèche. Mais après, je pense que on pourra jamais enlever ces résistances. C'est peut-être notre meilleur allié, parfois.
En fait, comment tu travailles? D'où pars-tu? Comment se déroule ta pensée à travers ce travail? Tu pars de toi, tu pars d'une observation, d'un objet.
Alors c'est souvent d'un contexte en fait, d'une occasion. Et à partir de ça, j'y amène ma propre nécessité. Je travaille à partir de mes nécessités. Et
tu l'écris? Enfin, tu écris d'abord ta performance?
J'ai des images. J'ai un
donc
matériau.
Donc elle vient comme image, pas comme texte. Elle vient pas en mots d'abord?
Non. Et peut-être, en fait, c'est presque comme une conversation qu'elle vient. Enfin, en tout cas, les trois performances que j'ai créées, que j'ai écrites. Sont venus d'abord comme une conversation. C'est-à-dire que ça vient d'abord par donc un contexte, une conversation et un développement. Je sais pas, c'est des découvertes, je crois, à chaque fois. Je me dis, tiens, ça marche, il y a quelque chose qui marche. Puis des fois, ça marche pas du tout. Donc c'est un peu abstrait ce que je dis, mais c'est comme un dialogue entre l'extérieur et l'intérieur de moi. Et entre moi et moi aussi, enfin je veux dire, c'est...
Tu la montres d'abord, enfin tu la montres Enfin, les textes, tu les dis, t'as des personnes avec lesquelles tu collabores ou tout oui. simplement des amis
Oui, parce qu'en en fait, à un moment donné, donc quand j'ai commencé par, on va dire, par le plastique, par les formes plastiques, des phénomènes visuels, on va dire, et je me suis aperçue que parfois, j'étais dans un rapport de percussion un peu violente, comme quand j'ai raconté... le rapport à la nudité ou et en fait je pense que maintenant ce que j'essaye que je travaille c'est le lien avec les autres et je me suis dit que en fait le lien se fait enfin il manquait la parole il manquait c'est un élément avec lequel je sentais que j'étais pas libre, en fait, que j'étais contrainte par le fait de produire que des images et que le langage, c'est le moyen d'échanger avec les gens.
Et d'une manière plus directe ou plus complète ? Ça complétait ton travail
Je pense que ça, oui, ça complétait le travail. Et qu'en fait, j'ai introduit le langage à partir du moment où j'ai voulu rencontrer un groupe qui se constituait, qui a été constitué par une artiste, Noura Weda, qui est le laboratoire des arts de la performance. À ce moment-là, j'ai pu pratiquer ce dialogue, j'ai pu y introduire les mots dans les performances. D'introduire le langage comme une matière, comme le corps, comme j'avais introduit le corps, je l'ai fait avec ce laboratoire.
Donc là, c'est toi qui écris tes textes.
Voilà.
Est-ce qu'il y a, puisque tu t'adresses à un public et tu parlais des liens, il y a un public pour la performance? Est-ce que, autre qu'artiste, je veux dire, il y a vraiment un public, c'est un médium qui est fréquenté ou il est considéré accessible?
Je pense qu'il y a l'intérêt de plus en plus sur la performance. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion avec
le laboratoire.
Avec le laboratoire, puis aussi par des invitations d'artistes comme Feriel Bouchaki. De performer, de faire des performances. Et
tu choisis tes lieux, comment ça...
En fait, c'est plus des rencontres avec des gens. Et parfois, j'aime bien aller voir dans d'autres contextes. Par exemple, j'ai présenté comme des chercheurs universitaires qui présentent des communications pour un colloque. J'avais proposé, parce que c'était possible, de proposer une performance dans un colloque qui s'appelle le colloque de la littérature en marge.
Oui, je t'avais vu, oui.
Et par exemple, ce genre de contexte m'intéresse en fait, qui est un peu décalé. Ou alors, après, c'est par exemple pendant les scènes furtives, qui est une forme faite par l'artiste Feriel Bouchaki, dans des parcs, de proposer une programmation, mais complètement, on va dire, spontanée. Par exemple, dans ces contextes, ça m'intéresse aussi de fabriquer des événements un peu des surprises en fait dans un quotidien. Mais après, c'est vraiment lié à des rencontres.
Et les résidences, ça compte aussi, ça permet aussi des rencontres. Est-ce que c'est la raison de la résidence, les rencontres et puis une plus grande.
Et puis, de prendre du temps pour la création.
Un temps hors de ton oui, environnement ouais, habituel.
Quotidien. Mais c'est, par exemple, c'est des résidences où je choisis en fait, d'aller un peu me mettre à l'écart pour pouvoir écrire et se consacrer à l'écriture ou se donner l'occasion de réfléchir, en tout cas. Dans un quotidien où je dois travailler, puisque je travaille à côté, c'est aussi dans sa propre vie, comment on essaye de consacrer ces moments.
Tu disais aussi que la nudité dans la performance, elle n'était plus vraiment subversive. Qu'est-ce qui est subversif aujourd'hui? Il y a encore du subversif?
Oui, je pense.
Il y a toujours.
Il y a toujours.
Tu as envie d'explorer.
Le subversif, je ne sais pas si c'est la question.
C'est pas ta question.
C'est pas ma question. Je pense que c'est. C'est plutôt conserver sa singularité. Et peut-être c'est ça. C'est. Ce qui est subversif, c'est. Je dis pas que je le fais, mais c'est plutôt, je dirais, ce à quoi je tente, c'est essayer de conserver sa singularité et pas transiger avec les discours extérieurs, ce que l'on doit penser, tout ça. Enfin, je pense que c'est peut-être ça. Parce que c'est essayer de ne pas se normaliser, en fait. De ne pas.
Tu penses que ça te ferait dévier de ce que tu as à dire, de ce que tu as envie de dire? Ou tu ne trouves pas intéressant?
Non, je pense. Bah, ça a un intérêt. Enfin, je veux dire, mais ce n'est pas là. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas là que je veux aller, en fait. C'est peut-être essayer. De conserver une certaine singularité. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans les œuvres des autres, c'est comment les résistances, on parlait de résistance, c'est ça, c'est comment on résiste aux pressions de l'information médiatique, en fait, comment on... Ouais. Je crois que c'est... C'est peut-être ça, le subversif. Après, la forme, forme subversive, ça, je ne sais pas.
Peut-être que la nudité, ça aurait pu être une... En tout cas, c'est ce que je me souviens. Tu avais dit que la nudité, aujourd'hui, n'était plus vraiment subversive. Donc, je me suis dit qu'à un moment donné, tu as pu considérer qu'elle l'était.
En fait, je crois que je... Je pensais que c'était pas subversif ce que je faisais. Enfin,
depuis le début.
Je crois pas. Dans le sens où, en fait, pour moi, ça avait un sens. C'était mon corps, ma matière, et que j'y voyais ce travail. Donc, c'est tout à fait naïf. Mais
oui, parce que tu m'avais dit, tu t'es confronté à un regard qui n'était pas du tout celui que tu pensais.
Oui. En fait, on restait dans les renvois, on restait dans les archétypes de le désir, l'objet quoi, de la femme en fait. Et je ne pouvais pas m'en, enfin c'est ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais pas m'en séparer de ça. Bon. Et de le faire en fait, c'est vraiment ça, c'est de l'avoir pratiqué, ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça. Et du coup de me repositionner par rapport à ce fait, parce que par rapport à d'autres femmes qui sont à fond dans se réapproprier ça et qui revendiquent comme Kardashian ou en fait c'est pas là où je veux j'en fais pas ma revendication, en fait je voulais trouver d'autres biais.
Les mots nous manipulent, toi tu manipules les mots, tu les déroutes, tu leur fais dire ce qu'à première vue ils ne disent pas, les décortiques. Tu interroges ce que tu appelles séparation entre le corps et les mots. Tu pointes le décalage parfois. Et c'est ta manière, une manière que tu as trouvée pour briser le non-dit ou pour rester dans le non-dit. Tu parlais aussi de rester dans le non-dit.
En fait, il y a parfois... Je me suis interrogée sur ça dernièrement et je me suis dit, par rapport aux résistances et même par rapport à mes textes, Et le fait que je dise pas, en tout cas dans mes performances, que je suis féministe et que je m'évertue à dire que c'est pas mon départ, c'est pas là où se place la genèse de ce que je fais. Je me disais peut-être que de pas dire, ça me permet de garder ce non-dit et de garder le doute chez l'autre, en fait. Et peut-être parfois, il est nécessaire d'avoir ce doute, enfin de cultiver ce doute. Peut-être qu'il me sert, en fait. Et même si je peux parfois me révolter sur des choses qui ne sont pas dites, et je me dis, mais en fait, je m'en sers de la même manière. J'utilise les mêmes, peut-être aussi dans mes textes, dans mes performances, ce que je critique, ce que je ne veux pas. Ça nous protège, mais je pense que les non-dits nous protègent.
Thank you.
commencé par des vidéos, donc tu filmais tes actions. Et à un moment donné, ce n'était plus suffisant. Tu as eu besoin de te confronter directement en public. C'est pour cela que tu as choisi une action en direct. Le film, ça restait une archive ou ce sont des choses différentes, la vidéo, l'archive?
C'est des archives, ouais. Je pense que c'est des archives dans un sens où c'est aussi des outils. Ça a été pour moi aussi un outil de recherche.
Pour comprendre aussi comment l'action a été reçue?
Oui, ce que ça produit en fait. J'ai commencé par mettre du scotch toute seule, donc sur mon corps, et tout d'un coup, j'avais pris des photos, des traces et tout ça, mais je me disais, mais en fait, ça dit rien. Enfin, en fait, c'est inerte. Et que la vidéo permettait cette temporalité, en fait, de donner, et comme le live, en fait, la présence donne cette possibilité de dérouler quelque chose, comme le rouleau de scotch, mais d'imprimer une histoire. Slim Burka, la vidéo performance, c'est vraiment qu'une vidéo performance. Ça n'a qu'existé en vidéo. Il y a des vidéos, enfin, il y a des dispositifs que je refais dans des contextes et que j'adapte en fait au lieu. Et comme, enfin, la femme effacée. Sur une paroi, on me recouvre de scotch de la couleur de la paroi. Et ça, je l'ai faite en vidéo, en premier lieu. En fait, la vidéo m'a servi de voir ce que ça produisait. C'est un outil aussi de compréhension des effets de ce que ça peut faire une action. Et en fait, je parlais plus d'action. J'aime bien cette idée d'action plus que de performance. Parce que c'était vraiment des actions pour moi. De se recouvrir et de se découvrir.
J'avais la description de quelques-unes de tes actions où tu présentes plusieurs performances. Pourrais-tu décrire ou lire?
T'avais une particulièrement que tu voulais...
Moi, j'avais plusieurs. J'avais celle où on te transporte 4 heures dans la ville.
Femme étiquette.
La Slim Burka.
Slim Burka.
Il y avait le lèche-vitrine. Il y avait salle. Femme résonance.
Résonance, ouais.
Voilà, c'était un peu ça. Lis ce que tu veux.
Ok. Femme corps, résonance. Résonance est pensée comme une fenêtre d'interrogation sur les peurs de la femme occidentale, libre, exprimée autour de la figure de la burqa. Librement inspirée du titre de l'ouvrage de l'écrivaine Nelly Arcan, Burqa de chair à travers résonance, je cherche à mettre en crise la situation. C'est le corps qui fait la femme, tiré de l'ouvrage putain de la même auteur. Le protocole, la femme corps nue, vêtue d'une burqa transparente, où seuls les yeux sont cachés, va entrer en vibration et émettre des sons. La nature des sons, à la fois cri, hurlement, home de méditation, sont autant de moyens pour exprimer la colère, la force, la douceur, la tristesse, les émotions ressenties par le corps. Sans mots, juste par l'image de cette femme-corps, sous le masque et la contrainte, le corps en vibration va résonner. Sous ce voile, la femme-corps livre une lutte intime pour être vivante.
La femme-corps, C-O-R.
Oui.
Et la femme occidentale libre, libre, entre guillemets.
Oui. Alors, Slim Burka, coupe sur modèle. Cette cette vidéo performance part de l'idée simple de transformer une combinaison Zentai, collant de corps recouvrant entièrement le corps de la tête aux pieds, en une slim burqa. À cette action de transformation, une voix off se superpose à l'image pour décrire ce que recouvre en couture le terme de la coupe. La coupe est à la fois la forme d'un vêtement et un type d'assemblage des pièces, ainsi qu'une phase du processus de fabrication d'un vêtement, l'action de couper le tissu pour assembler ensuite les pièces. La voix off est la voix de Marie Loski, costumière de métier, qui avait réalisé la burqa de tulle de la performance précédente « Résonance ». Le montage de la vidéo-performance montre une alternance d'images de la coupe en train de se faire dans un atelier et d'images d'abstraction du corps enfermé dans la combinaison rouge. Au fur et à mesure que la coupe avance, le mouvement du corps à l'intérieur de la combinaison semble de moins en moins contraint. À la dernière séquence de la vidéo-performance, lorsque la coupe de la slim burqa est terminée, la liberté de mouvement est telle que le personnage se livre à une sorte de combat intérieur. Dans la succession des plans rapides sur le personnage vêtu de la slim burqa, nous pouvons voir les mains, les bras, qui étirent au maximum le tissu élastique. Par ces étirements, et le cadrage rapproché, ce personnage sans visage devient totalement monstrueux. La dernière image est un gros plan sur le buste difforme du monstre rouge. À la fin, il s'évanouit dans un fondu au blanc. Sur l'écran blanc, la voix off revient sur l'action que nous avons vue précédemment. Marie décrit et explique sa propre expérience du modèle vivant de la coupe de la combinaison Zentai rouge. Cette dernière séquence est comme une invitation en direction du public à faire de même. Sales, ou salle, parce que sales c'est comme des, en anglais, oui, oui. Les soldes. Une femme recouvre consciencieusement l'entièreté de son visage avec des pastilles adhésives rouge fluo avec la mention « offre spéciale ». Après avoir constitué un masque occultant son visage, elle met en mouvement son visage afin de décoller la croûte constituée. Lèche-vitrine. Une femme se recouvre méthodiquement le visage de chocolat fondu. Tout aussi méthodiquement, elle ingère ce nappage de chocolat de manière à nettoyer en totalité son voyage. Visage. La femme étiquette. Jusqu'à quel point je reste? La femme statue est recouverte des pieds à la tête de 2500 adhésifs fluo avant le début de l'action. Sur un diable, un homme transporte la femme statue pour la déposer au milieu de la plus grande place du centre historique de Rétimos. C'est le top départ. Suite à ce premier positionnement, la femme statue va être aux mains d'un homme. Il lui fera jouer le rôle à la fois de mannequin ou de marchandise devant les magasins d'objets de décoration ou d'animaux domestiques. Pendant 4 heures, la femme objet, sculpture inerte, corps chaud et mou, en corps humain, abstrait, forme comme une échelle humaine, un étalon dans l'espace public de la ville. Au bout de ce parcours, à travers la ville ancienne, la femme objet va se libérer de sa carapace. Elle est posée par l'homme dans une galerie d'art, comme une statue exposée. L'emplacement de son installation est derrière une source de lumière noire. Cette lumière noire fait ressortir le fluo des étiquettes. À partir de ce moment-là, elle commence à s'animer. Par le mouvement du corps, elle désolidarise les morceaux de la peau fluo. Le mouvement est initié par les bras, le ventre, les jambes, qui entame une torsion, s'écarte, une première ouverture s'opère au niveau du sexe. C'est le début de l'arrachage des pastilles. Au fur et à mesure de cet arrachage, sous l'effet de la lumière noire, le corps disparaît dans le noir. La lumière noire n'accroche que le fluo de la carapace. À la fin, l'illusion optique fait disparaître en totalité le corps. À la fin de l'arrachage, la performeuse sort de la scène par le public. Le scotch. 03. Une femme, un homme, se présentent côte à côte avec des rouleaux de scotch de bureau. La femme entoure son corps de scotch dans un mouvement ascendant, depuis le bas de sa jambe jusqu'au torse et au bras. Elle se concentre sur cette action solitaire, tout le long de la performance. L'homme, lui, lie l'autre jambe de la femme à sa propre jambe, puis leurs deux torses. Du début à la fin de la vidéo, ils sont concentrés sur leur action. Les deux mouvements simultanés s'enchevêtrent et interfèrent jusqu'à ce que la femme et l'homme se livrent bataille pour un final se séparer.
Femme étiquette et le scotch 03 ont été conçus et réalisés avec Sylvain Borsati.
Jour et nuit, nous aujourd'hui même, tu me tangentes. j'entre concentrique. Tu me vertiges, tu m'extases, tu me passionnément, tu m'absolues. Je t'absente, tu m'absurdes. Je te narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hantes. Je te poitrine, je buste ta poitrine, puis te visage, je te corsage. Tu m'odores, tu me vertiges, tu glisses, je te cuisse, je te caresse, je te frissonne, tu m'enjambes, tu m'insupportable, je t'amazone. Je te gorge, je te ventre, je te jupe, je te jartelle. Oh, je te bats, je te bac, oui je te bac pour clavecin, sein et flûte. Je te tremblante. Tu me séduis, tu m'absorbes, je te dispute, je te risque, je te grimpe, tu me frôles, je te nage, mais toi tu me tourbillonnes, tu m'effleures, tu me cernes. Tu me chair, cuir, peau et morsure. Tu me slip noir, tu me ballerine rouge. Et quand tu ne haut-talons pas mes sens, tu les crocodiles, tu les phoques, tu les fascines. Tu me couvres, je te découvre. Je t'invente parfois, tu te livres. Tu me lèves mine, je te délivre, je te délire. Tu me délires et passionne. Je t'épaule, je te vertèbre, je te cheville. Je te cile et pupille. Et si je ne m'emplate pas avant mes poumons, même à distance, tu m'es seul. Je te tends, je te griffe. Je te vulve, je te paupière, je te haleine, je t'aime. Je te sens, je te couds, je te mollets, je te certitude. Je te joue et te veine.
Les matériaux que tu choisis, le scotch, le fluo, l'élastique, c'est des objets symboliques. Ils portent une symbolique particulière pour toi. C'est la société de consommation, c'est les adhésifs, les autocollants, ou c'est simplement ils s'imposent parce que pour la nécessité de la performance.
Non, mais ça reste signifiant, oui. J'utilise les codes, effectivement, de la société de consommation.
Le scotch revient tout le temps, presque.
Oui, et des éléments du quotidien. C'est cette confrontation du corps à l'objet aussi du quotidien. Et dans la performance, histoire de conjugaison, c'est cette comparaison entre le corps et l'objet. Et peut-être on peut voir dans tout ce que je c'est l'introduction de du fait de mettre un objet avec le corps et ce que ça fait ensemble.
Qu'est-ce que Mais pour toi, la relation entre... C'est là que ça se joue, entre le corps et les objets.
Et l'objet, oui.
Et l'objet. Mais il me semble que tu dis que pour toi, c'est là que ça se construit, le lien à la soumission, à l'enfermement, au conflit.
Oui.
Dans le rapport qu'on a avec les objets.
dans le rapport avec, oui, l'objet. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est aussi... Il y a ce rapport aussi à l'objectivation d'un vivant. C'est cette confusion. C'est là où, en fait... alors, la soumission, c'est soit soi-même, mais c'est aussi la soumission de l'autre qui nous soumet. Donc
l'asservissement.
L'asservissement. Ouais, ouais. Et dans cette idée d'asservissement, c'est on transforme l'autre en objet qui va nous être utile ou pas. Et donc, je pense que c'est une des questions, c'est à cet endroit-là, dans notre propre rapport avec l'objet que se joue ça.
Tu continues de collaborer. Tu as écrit une trilogie, La fille de l'Est, La fille de l'Est au pays des obéissances, et la troisième partie, La fille qui voulait avoir les cheveux élastiques, tu la présenteras en septembre dans l'espace de création DOC avec... l'artiste Fariel Bouchaki.
En fait, c'est une collaboration, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble autour de cette performance. Et elle vient faire le regard extérieur et en fait mettre en scène peut-être l'assemblage de ces trois performances.
Pourrais-tu décrire ou lire le deuxième volet? La fille de l'Est au pays des obéissances, pour essayer de faire entendre à nos auditeurs ce qu'ils ne peuvent pas voir.
Oui, je veux bien. Parler de désobéissance. C'est un mot pour moi... Comme chaque mot, j'essaye toujours de comprendre pourquoi ils me mettent dans un état de confusion, d'angoisse, avant même de pouvoir le mettre à la conscience. Le mot en tant que tel, désobéissance. Là, tout de suite, sans rien faire, comme en y réfléchissant, je plonge dans l'enfance. Ma mémoire peut me faire défaut. Désobéir. Je n'ai jamais pensé au départ à la désobéissance. Je faisais ce que j'avais envie de vivre, de faire, tout simplement. Parfois, mes parents, dans ce que je faisais, me renvoyaient à la désobéissance. Ainsi, je ne désobéissais pas, mais on me renvoyait le fait que je désobéisse. Ainsi, la désobéissance, c'est l'autre. Il y a soi, il y a les autres, et une troisième. La loi, l'autorité, la morale. Le substantif féminin. Désobéissance. Je me suis intéressée à la proxémie des occurrences autour du mot désobéissance. Pour rappel, au départ, la proxémie est une approche anthropologique dont le concept est que la distance matérielle, c'est-à-dire l'espace, entre des personnes en interaction, serait le produit culturel. Cette notion a été introduite par l'anthropologue américain Edward T. Hall à partir de 1963. Ici, en ce qui nous concerne, la proxémie est la distance qui relie les différentes occurrences qui gravitent et se rattachent à la désobéissance par groupement. Donc voici une diapositive que je vous présente, une modélisation 3D de ces occurrences, de ces mots autour de la désobéissance. Présente une deuxième diapo, j'ai fait une mise à plat, deux colonnes identiques en parallèle des mots proxémie de la désobéissance et des lignes en étoile depuis le mot désobéissance le relie avec les synonymes directs. Troisième diapo, puis je rajoute des lignes avec désobéissance et les liens avec les synonymes entre eux. Des liens des synonymes aux autres, occurrences, qui gravitent autour, la quatrième diapo. Et enfin, les liens aux autres. Et là, c'est une confusion de liens. Et donc cela commence par les dés, le hasard, désobéissance. Il y a les contraventions. Il y a les uns, indisciplines, indociles. Il y a la majorité, l'insurrection. Les uns et les autres, il y a le hop, opposition. Il y a la morale, le péché, la faute, la norme et le ça va de soi, l'observation. Il y a la solitude, l'indépendance. Il y a le rassemblement, l'émeute. Il y a le ment, le songe, le manquement. Il y a les rébellions, résistance, révolte. Il y a le là. La révolution. Il y a la musique, le viol, la violation. Il y a un acte, une prise de risque, le mou, mouvement, le mu, mutinerie, et le mutisme, le cri et le mime, le crime. Il y a ou, outrage, oubli. Il y a le trou, trouble. Et puis, j'ai toujours besoin d'associer un matériau au mot pour aller au cœur de la matière. Et là, il y a tout particulièrement un qui m'a intéressé, c'est le PQ. Et surtout, ce que j'aime, c'est comment il a été conçu et sa capacité à avoir plusieurs états dans l'espace. Une ligne qui se déroule, le lien, la coupe nette entre les feuilles. La division. Et dans l'eau, la dissolution. Et au-delà, le geste. Quand il est dissolu, la boulette que l'on envoie sur les murs et qui reste comme une trace.
Alors, les formes utiles, Natasha, quelles pourraient être les formes utiles pour toi?
Alors, il y en a plusieurs, mais en fait, moi, je pense toujours à ton image de cette émission, qui est... en fait, c'est des ciseaux, dont une partie des ciseaux est partie. Et ça n'est plus la même fonction que les ciseaux. Et donc, ça amène à l'imagination. Et en fait, c'est peut-être ça, les formes utiles, peut-être, c'est celles qui nous permettent de pas être dans cette détermination qu'un ciseau, il peut être autre chose qu'un ciseau.
Merci, c'est très beau. Et tu es architecte, tu es aussi artiste, donc ma dernière question aura une double. Quelle est la responsabilité de l'architecte et quelle est la responsabilité de l'artiste que tu es?
Alors, l'architecte, il en a plein dans la société. De fait, il y a le corps de la corporation de l'architecte qui fait que dans la société, on lui a mis des tas de responsabilités, mais pas que pénales, mais aussi, je pense qu'il a une responsabilité dans la société. Peut-être au niveau politique, dans les formes qui produit, et dans les positionnements. Mais moi, je pratique pas non plus.
Tu as pratiqué quand même un peu.
J'ai pratiqué un peu, mais pas en tant qu'architecte. J'ai pas signé des bâtiments, on va dire. Après, en tant qu'artiste, je pense qu'on a la même responsabilité que les architectes. Au point de vue moral, peut-être. Mais
tu penses quand tu fais une performance à ce qu'elle fait à l'autre? Est-ce que tu te sens responsable de ce que ça lui fait? Ou ce que ça pourrait lui faire? Si ça lui fait violence, si ça lui fait plaisir, si ça lui fait poser des questions.
Là, je ne maîtrise pas, en fait, ça.
Toute cette partie-là ne...
En tout cas, je ne maîtrise pas les effets que ça fait. Mais donc, la seule responsabilité que j'ai, c'est... moi, je pense que c'est peut-être... d'être, je dirais, fidèle à soi-même, mais... dans le sens où... ce que j'ai produit, je pourrais toujours, même si je peux ne plus être d'accord, mais je serai toujours en accord,
avec ce que
j'ai fait. Même si j'ai évolué, je ne peux pas me défiler face à ça. C'est peut-être ça. Peut-être, je ne sais pas.
Donc être en accord avec ça.
Je pense.
Merci Natasha. C'était un plaisir de t'avoir.
Merci Fabiola. C'était aussi un plaisir.